Le peuple de la mer, deuxième partie, chapitre 1. La femme. Ayant reconnu le côtre des douanes à la jumelle, Jean-Baptiste Piron rentra au phare et dit à Semelin « Voilà le martroger !» Sur le lit où il reposait, tout vêtu, Semelin grogna, indifférent. Hein, « Il vient relever le garde-sémaphore !» reprit Jean-Baptiste. Mais, importuné, l'homme se tourna brutalement vers le mur en écrasant le sommier, et l'on n'entendit plus que le cri-cri heureux du coquemard qui se cuisait le derrière sur le fourneau rouge. Jean-Baptiste passa dans la chambre voisine où des cuivres luisaient sous une vitrine. Il regarda l'heure, consulta le baromètre, endossa une capote et sortit. Dehors, des congres séchaient sur des cordes. Il ne faisait pas froid parce qu'il ventait peu. C'était un temps gris de février, tout en cotonné de brume, avec un océan de mercure qui ressaquait lourdement dans les roches. On ne voyait point de terre à l'horizon restreint. L'îlot du pilier, qu'on embrassait d'un coup d'œil, était seul, perdu en mer. Et une petite voile se hâtait vers lui, inclinée par son élan. Jean-Baptiste longea l'enclos du phare et descendit vers la mer. Devant lui, des lapins déboulaient par petits sauts comiques. Il gagna une pointe rocheuse, parallèle à la jetée, et s'y tint debout pour voir le départ des charriers. Il y a, sur ce roc d'un kilomètre, un phare et un sémaphore, abritant quatre êtres humains sous leur toit bas, accroupis ras la terre, dans la crainte des vents ravageurs. Ils sont séparés des autres hommes qu'ils aperçoivent au loin dans des barques. Ils n'ont même pas un solide canot pour gagner la côte la plus proche. Et durant les mois d'hiver, cernés par la tempête, ils ne voient plus rien de vivant que les mouettes aux abois sauvages qui fuient dans les bourrasques. Mais pour rendre l'exil plus pénible, la discorde régnait entre le phare et le sémaphore. Là, où il y a seulement deux hommes, il y a de la haine. Les gardiens étaient si bien fâchés à propos de gibier et de poisson qu'ils ne se parlaient plus, même pour les besoins du service. Quand le phare s'allumait, Charrier rentrait sa longue vue et cessait de regarder la mer. « C'est à eux autres de veiller, » disait-il. Et plus rien au monde ne lui aurait fait aider les gardes-phares. Au contraire, il se réjouissait de les prendre en faute. Sa femme rôdait sans cesse de leur côté, aux écoutes, aux aguets, et lorsque passait l'ingénieur, il l'assommait de barres à comptards. Charrier prétendait que Piron levait ses lignes et tuait ses lapins, d'où la mésentente. Les premiers temps, Jean-Baptiste avait riposté pour se défendre. Maintenant, il ne soufflait plus mot, à l'exemple de Semelin, le taciturne. L'administration avait décidé de déplacer ses geigneurs. Et Jean-Baptiste, un peu pour narguer les partants, curieux aussi de leur successeur, s'était venu camper en face de la jetée. Les mouettes tournoyaient sur la mer déserte. Pas une voile, sauf celle de Marthe Roger qui s'engageait maintenant sous l'îlot. Jean-Baptiste distinguait à bord une grande coiffe ailée et la tache rouge d'un caraco qui le firent s'exclamer d'étonnement. Penché en avant, il fronça les paupières, et tout à coup, remontant la falaise, il se dirigea résolument vers la cale. La gaude ! C'était bien la gaude ! Assise sur la lisse, le menton dans les paumes, et toisant obstinément l'île, dont la haute muraille, plaquée de lichens fauves, dominait le sloop. Il avançait à peine, abrité du vent. Il glissait imperceptiblement, sans friser l'eau si limpide qu'on voyait les dessous de la coque, aplatie par la réfraction. Un matelot lança une amarre que Charrier goba au vol et le martroger accosta. Piron ne se tenait pas de joie et gambadait comme un jeune chien. « Ah ben, c'en est d'une surprise !» « Donne-nous donc la main à débarquer, au lieu de japper !» cria la jeune femme en montrant ses dents saines dans un rire satisfait. Gault paraissait plus maigre qu'autrefois encore. Le maxillaire, les pommettes, les arcades sourcilières tendaient sa peau et on le sentait blêmi sous le hâle. À l'air Baudière, la mère Issachar prétendait que le sang lui tournait en eau, mais les hommes disaient qu'il était vidé comme une outre, en désignant la gaude du coin de l'œil. À la vérité, Gault crachait le sang depuis que Double Nerf lui avait défoncé les côtes. Ça le brûlait dans le coffre quand il toussait, et il n'avait plus de goût qu'à se croiser les bras et dormir. Il avait dû débarquer du secours de ma vie, et sa femme, à force de démarche, on chuchotait à force de complaisance, avait obtenu la garde du sémaphore au pilier. Elle était toujours magnifique dans la force de ses 30 ans, épanouie au grand vent comme une algue en pleine eau. Ses jupes et son caraco se gonflaient par-dessus les fruits mûrs de ses hanches et de ses seins proportionnés qui semblaient s'offrir sans cesse au mouvement de son corps souple. Elle avait les jambes à l'air, sous le cotillon court des sables, les manches troussées, le cou nu. Elle ne sentait pas le froid, tant chauffait le sang qui roulait dans ses artères. De belle humeur, de royale santé, rude au labeur, rude au plaisir, la gaude était une splendide femelle qui matait les hommes, qui matait la vie, redoutable comme une force inconsciente de la nature. Elle avait embauché Piron, qui coltinait joyeusement pour elle des sacs de hardes. Beaulieu, le patron du Martreger, hâtait le débarquement pour rentrer à Noirmoutier avant basse mer. Il y avait 3 fûts de pétrole à mettre à terre et du charbon pour le phare. Beaulieu pria Charrier de leur donner la main, mais sa femme répondit aigrement « Laisse donc se débrouiller ceux qui arrivent. On fiche le camp, nous autres. » « Et Semelin ?» réclama Beaulieu. « Il dort à cette heure. Je veux apparer le treuil. » Piron gagna la petite grue qui tend le col à la pointe de la jetée et sert à hisser la Norvégienne couchée là, les fonds en l'air. La poulie cria comme un oiseau perdu. Piron virait gaillardement la manivelle en paradant devant la gaude. Ses omoplates et ses biceps se moutonnaient sous le maillot. Gault montait au sémaphore, plié en deux sous un panier. Sa femme le suivit, portant les derniers ballots sur ses hanches. Le Martreger s'approchait et s'éloignait tour à tour du quai, très doucement, sans osciller. On distinguait le fond sablonneux, auquel descend une échelle de fonte, où veillaient 2 crabes accroupis. Des bancs de minuscules poissons passaient par moments comme des taches d'ombre. À bord, les hommes buvaient le coup du départ à même le goulot d'une bouteille qui circulait à la ronde, quand, pensant au sien, Piron demanda « Et le père ?»« Oh, il liche toujours et cogne sur sa bonne femme. »« Oh, y a du bon !» rigola le gars. « C'est qu'il se porte bien, s'il s'embreuve et rosse la mer. » Le matelot hissa les focs, puis déborda à la gaffe le sloop pesant qui fit 5 brasses et s'immobilisa. Il fallut parer les avirons de 15 pieds pour gagner le vent, que l'on voyait friser la mer hors de l'abri de l'île. Toute à ses emménagements, la gaude ne songea pas que cette barque, qui s'éloignait, l'abandonnait sur un rocher solitaire cerné par l'océan sournois. Piron montait à terre en donnant à Gault des explications sur son poste, puis il rentra au phare. Dans la cuisine, Semelin préparait un courbouillon pour les congres allongés sur la table blanche. Le chat le guettait de son œil fendu de haut en bas. Il flottait une odeur d'oignon, de persil et de vin blanc chauffé. Jean-Baptiste poussa gaiement la porte. « Ah, sais-tu qui nous arrive ? » ?»« La gaude, la sablaise de l'air Baudière. Ah, une sacrée belle fille !» Il claqua sa langue contre ses dents et attendit l'étonnement de Semelin. Mais celui-ci ne bronchant pas, Piron reprit. « Tu l'as bien connu. Ce homme naviguait avec Olichon. » Semelin souleva tranquillement le couvercle de sa casserole dans une bouffée de vapeur. Un peu dépité, Jean-Baptiste se lança dans une longue tirade où passèrent les cancans de l'Herbaudière, la splendeur de la Gaude, la file de ses amants, la fainéantise de Gaud et les coups de poing d'Aquenette. Il aurait voulu rompre le mutisme tenace de son compagnon, engager une conversation où la belle-fille aurait été présente à chacune de leurs paroles, parce que son sang de jeune homme, longtemps sevré d'amour, se pressait tumultueusement dans ses artères. Mais Semelin lui dit simplement, quand il s'arrêta à bout de souffle, « On avait bien besoin de cette femelle. » Et comme il insistait pour que les Gauds vinssent casser la croûte avec eux, Semelin s'interposa carrément. « Ah, non, jeune homme, chacun chez soi. » Semelin est la loi de l'île. Il porte à la fois la tradition et le devoir dans sa conscience. Derrière ce visage strictement rasé, d'où se détache un carré net de barbe blanche. Semelin a la physionomie classique du loup de mer, qui évoque la vieille marine en bois et les frégates aventureuses, joufflues comme des amours. Dans sa vareuse et sous le béret à ruban, il méprise les jeunes matelots qui font l'arrêt, frisent leurs moustaches, chausse la bottine et relève la casquette à la russe, à la manière du premier souteneur des ports où les a traînés le service. Il y a bientôt un siècle, son grand-père était garde du fort, au pilier, et il avait construit, au nord de l'îlot, une chapelle emportée depuis par la mer. Son père lui succéda et fut gardien du premier phare quand on déclassa la forteresse. Et lui, le dernier des Semelin, sans femme et sans enfant, s'est installé dans la nouvelle tour en 1881, sur ce rocher qui est presque un bien de famille, où il vit tranquillement dans le service, la méditation et la peur de la retraite qui le renverra bientôt sur le continent avec les hommes. Semelin ne desserre parfois pas les dents pendant toute une semaine, bien que son second, desséché d'ennui, le harcèle. Mais s'il parle certains soirs de veille, il compte interminablement les anciennes légendes de la marine à peu près oubliées et l'histoire des côtes avoisinantes. Il porte sous son crâne toute la mémoire des ancêtres et il évoque les vaisseaux fantômes, le grand chasse-foudre ou le voltigeur hollandais, comme s'il avait vu au moins une fois dans sa jeunesse apparaître leur silhouette diabolique. Il sait qu'au nord-ouest de Noirmoutier, un follet garde un trésor dans l'anse du lutin, qu'à la pointe de la corbière, des oiseaux jadis révélaient l'avenir, que le nom de pilier signifie l'île des filles, Insula Puellarum. À cause des druidesses qui l'habitaient avant que les bons moines y eussent installé Dieu. Car le pilier eut son abbaye, dont Semelin connaît l'emplacement, à l'époque où une chaussée de pierre joignait l'îlot à la grande île. Avec Piron, qu'il nommait « mon petit gars » aux heures de confidence, et « jeune homme » dans les périodes de mutisme, il vivait en bonne intelligence, en somme, sous condition qu'il respectât le devoir. Le visage du vieux se plissait gravement chaque soir à la tombée de la nuit, et il semblait que sa conscience s'allumât en même temps que le grand feu de la lanterne. Il avait coutume de dire à Jean-Baptiste, avec une majesté grandiloquente, « Les hommes comptent sur nous, jeune homme !» Et quand il gravissait l'escalier de son pas ferme pour gagner la chambre de veille, dominé dans sa volonté, Piron le suivait docilement. L'après-midi, ils astiquaient avec manie de la cave à la girouette, et, au temps perdu, Jean-Baptiste pêchait autour de l'île, parce qu'étant jeune, il avait besoin de lutter et de vaincre. Semelin demeurait paisiblement au phare, à lire ses prières ou à coller des coquillages en forme de bonshomme. Il rapetassait, en outre, les vieilles salopettes, salait du poisson pour l'hiver et préparait les repas. Il venait de servir les congres bouillis qui fumaient dans un plat de terre. Un peu penaud, Jean-Baptiste prit sa part et la dépeça avec le pouce et la pointe de son couteau. ils étaient assis face à face, assez loin de la table, à la manière des paysans. Un bol de vinaigrette les séparait, où ils trempaient alternativement leur bouchée avant de la manger. Bientôt, grâce à la nourriture et aux rasades, Jean-Baptiste se rassura et recommença de taquiner le vieux avec la gaude. Mais le visage de Semelin était clos comme une muraille, et, pour mieux ignorer Piron, il s'occupa du chat qui frôlait ses jambes, la queue haute. Après déjeuner, du vent s'éleva, un lourd vent d'hiver qui sifflait sur le biseau des murs et poussait les houles contre les falaises. La mer verdit et s'empanacha au large en reculant son horizon. Jean-Baptiste alluma une pipe et se dirigea vers la porte.
« Il y a les lampes à faire, » dit Semelin. « Je reviens tout de suite. »
Le mât à signaux vibrait dans la brise et ses haubans geignaient en raidissant. Jean-Baptiste contourna le fossé circulaire et franchit le pont-levis de l'ancien fortin transformé en sémaphore. La chambre de veille braquait ses gros yeux de verre sur l'océan et, au sommet de son toit rose, le télégraphe aérien avait replié ses bras, comme un épouvantail dont le vent aurait abattu les membres. Dans l'enceinte, la gaude jetait du blé noir aux poules pressées autour de ses sabots. Gaud fouillait à la longue vue du côté de la terre qu'il venait de quitter et vers laquelle s'en vont toujours les regards des hommes, si loin qu'ils aillent dans le large, parce qu'elle est la mer et qu'ils sont pétris de sa poussière.
« Te v'là revenu tourner dans mes jupes ?» fit la jeune femme. « Oh, c'est quasiment pour vous donner la main.
Ben, rentre donc ces deux sacs-là. »
Jean-Baptiste se mit docilement à l'œuvre. Gaud le regarda, en tout sautant, enlever d'un coup de biceps une lourde poche. Il s'approcha soudain de l'autre, l'empoigna et la hissa nerveusement à la maison. La femme cria
« Lâche donc ça! Tu vas te faire du mal !»
Mais en ressortant, il bougonna
« Tu crois déjà que je suis foutu ?»
À cette remarque, Piron se sentit honteux de sa force et fit le gros dos pour dissimuler sa carrure. La femme les observait tous les deux, Gaud le malingre et lui, avec des yeux clairs, pleins de sourires. La comparaison le gêna et il proposa en manière d'excuse
« Venez vous voir le phare !»
La femme accepta joyeusement. Elle n'en avait jamais visité. Gaud grommela en ramassant sa lunette.
« J'en point le temps !»
Et il rentra dans la maison. La gaude ne s'en inquiéta pas et partit avec Jean-Baptiste. Dehors, le vent ballonna son cotillon court en menaçant de la trousser. Elle rit largement, plaisanta et continua d'avancer en écrasant les salicornes brûlées sous son sabot gaillard. Ils franchirent la crête de l'îlot que le vent rase jusqu'à la pierre. La mer brisait à blanc à leur gauche, du côté de l'ouest, et ressaquaient doucement à leur droite sous la falaise. Les deux tours se dressaient devant eux. L'ancienne, découronnée de sa lanterne, colonne granitique et vasée en campane au sommet, à 14 mètres en avant de la nouvelle, plus haute, plus forte, surmontée d'une cage en verre casquée de bronze. Des toits roses, très bas, se serraient à son pied sur des murs immaculés. Quand ils entrèrent, un bouchon de vent s'engouffra avec eux et le phare ronfla comme une cheminée. Semelin, qui fourbissait des instruments, ne se retourna point en entendant deux pas. Piron entraîna la gaude loin du vieux. Elle s'émerveillait de la propreté. Il n'y avait que cuivre et chêne ciré. La chambre de l'ingénieur était comme une glace où l'on se mirait en raccourci dans les planchers. Jean-Baptiste s'attarda à montrer sa chambre. Un lit de fer, une table, deux chaises. Des images pieuses et une grande croix de coquillage décoraient celle de Semelin. Mais la gaude voulait monter à la tour. D'en bas, elle leva la tête pour admirer la hauteur de ce tuyau, sur le mur blanc duquel se développe, en hélice, un escalier de fonte. Jean-Baptiste contemplait sa gorge musclée. Ils montèrent sur leurs chaussons, elle devant. Il la suivait, le nez dans son cotillon qui balait au mouvement de ses hanches. Il haussait la main rapidement sur la rampe pour attraper la sienne le plus souvent possible. Elle s'arrêtait aux fenêtres et regardait l'îlot qui diminuait sous elle. Alors, il se penchait sur son épaule et ne trouvait rien à répondre à ses questions. Ils arrivèrent à un palier. C'était une petite pièce lambrissée de placards vernis, avec, au milieu, le pied de bronze de la lanterne. Une échelle de cuivre y conduisait. La gaude monta, mais brusquement Jean-Baptiste lui chatouilla les mollets par derrière.
« Ah ! Le petit bougre ! Vas-tu finir ?»
Elle rua dans l'air en rigolant. Le gars rit aussi, du sang aux yeux, et cessa, parce qu'il craignait de casser quelque chose. Ils débouchèrent dans la cage de verre, toute vibrante sous le vent, qui modulait des sifflements aigres le long des arêtes. Piron tira les rideaux qui couvrent le fanal, et des lentilles de 2 mètres apparurent, avec leurs échelons et leurs disques de cristal. Puis il poussa l'appareil qui tourna sans bruit sur sa cuve de mercure, en emportant une lumière d'argent dans ses glaces. La gaude était impressionnée. Jean-Baptiste triomphait dans ses explications. Il lui fit pousser l'appareil à son tour en lui tenant la main. Et elle s'amusa, parce que c'était très lourd et que ça marchait tout seul. L'horizon, élargi pour leurs yeux élevés, découvrait Noirmoutier dans le sud-est. Mais sous eux, l'îlot n'était plus qu'un caillou oblong, au milieu des eaux solitaires et agité tumultueusement à perte de vue. La gaude resta un moment silencieuse, saisie par la solitude. Autour d'elle régnait la mer, jusqu'aux limites de son regard, jusqu'au ciel, si vaste et si coléreuse que le pilier semblait un dérisoire refuge qu'elle pouvait anéantir d'une seule charge de ses houles. On est quasiment abandonné, dit-elle d'une voix triste. Mais le gars de ripostait gaiement. Suis-t-il point là pour te tenir compagnie? Alors, ils redescendirent à la chambre des placards. Sur le palier, Jean-Baptiste prit la gaude à la taille en se penchant vers elle par-dessus l'escalier et sa main rampa jusqu'au sein. Elle laissait faire. Alors, brusquement, il l'empoigna à bras-le-corps, la collant à lui, ses lèvres écrasées sur la nuque fraîche. Elle chercha à se dégager, mais il la tenait serrée, une cuisse entre les siennes, épuisant de sa bouche goulue tous les coins de chair découverts. Enfin, d'un effort, elle le repoussa. Le béret du gars tomba en tournoyant dans le puits du phare. Le vent sifflait autour de la lanterne. Ils demeuraient face à face, écarlates.
« T'es une grosse brute !» dit la femme.
« Je t'avais déjà giflé chez la mère Connard, quand t'étais au service. »
Un souvenir qu'on porte à deux, même mauvais, rapproche toujours. La gaude s'amollit en songeant au soir où le jeune gars, avantageux sous le col bleu de la flotte, l'avait si hardiment pressée dans une auberge de Noirmoutier, tandis que la même imagination excitait Jean-Baptiste en lui rappelant la longue attente de son désir. Et son sang surchauffé d'homme cria désespérément « Marie ! Marie !» À ce moment, comme un écho, le même appel monta d'en bas en résonnant et les saisit. L'obscurité s'était amassée au fond de la tour et ils devinèrent Gaud qui allait, la face en l'air, plutôt qu'ils ne l'aperçurent.
« Espère un brin, je visite, on va y aller !» jeta la femme.
Fâchée d'être dérangée, elle se tourna vers Piron, lui sourit, et descendit vite sur la fonte sonore. Jean-Baptiste ouvrit une porte et sortit sur la galerie extérieure, en plein vent, en plein froid, parce que les tempes lui battaient et que son front ruisselait. La lourde nuit d'hiver pesait déjà sur l'est. Semelin passait dans l'escalier, silencieusement, une lampe dans les mains.